Europe 1.
5h, 7h.
Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui s'emploie à mélanger les serviettes de l'info et les torchons du rire. Un exercice pas toujours évident. Heureusement, mes complices Eva Rock et Céline Dacosta ont un secret. Elles sont bon public.
Au total, la fracture. 118 milliards par an après la destruction des côtes.
Des côtes
de bœuf.
Et ça vous amuse.
Heureusement, Debout les copains, c'est aussi l'analyse. Ça vous amuse, vous, visiblement. C'est aussi l'analyse critique de Fabrice Dalméda, le monsieur histoire d'Europe 1 qui revient aujourd'hui à l'heure où l'on parle de l'interdire sur l'histoire de la fessée. Si elle reste évidemment acceptable dans le cadre de jeux coquins entre adultes consentants, elle ne l'est plus du tout en tant que châtiment corporel à vertu soi-disant éducative. Fabrice Dalméda revient sur l'histoire du châtiment corporel à travers les âges.
Merci d'écouter Europe 1 ce jeudi 29 novembre. Il est 6h, très bon réveil. 5h-7h, Mathieu Noël.
Tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce jeudi 29 novembre. Voici le journal de Céline Kallmann. Bonjour Céline.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin Céline.
Les autorités envisagent de fermer complètement le secteur des Champs-Élysées samedi en vue d'un nouvel appel des Gilets jaunes à manifester à Saint-Brieuc. Certains veulent supprimer la TVA. Nouvelle révélation concernant Tariq Ramadan. Son passé ressurgit d'anciennes élèves l'accusent d'attouchement alors qu'elles étaient mineures. Et puis la magie de Paris après sa victoire sur Liverpool en Ligue des Champions hier soir. 2-1 au Parc des Princes. Les Parisiens obtiennent leur ticket pour les huitièmes de finale.
Europe 1.
Édouard Philippe entame ce matin à Matignon 2 jours de consultation. Objectif, dessiner les contours de la grande concertation locale voulue par Emmanuel Macron. Une concertation pour tenter d'apporter de nouvelles réponses au mouvement des Gilets jaunes. En attendant, ces derniers ne comptent pas baisser les bras. Et c'est une information Europe 1. Les Gilets jaunes de Saint-Brieuc vont lancer samedi une opération inédite. Artisans et commerçants sans TVA, ils veulent frapper l'État au portefeuille. Reportage de François Coulon.
Les commerçants et artisans qui répondront à l'appel des Gilets jaunes vendront produits et prestations hors taxes, une TVA non collectée qui ne sera donc pas à régler à l'État. C'est le raisonnement des promoteurs de l'opération, Benoît Julou.
Ils vont faire sur le mois de décembre une déclaration de TVA à zéro, ce qui fait qu'ils pourront déduire leur TVA. Sur beaucoup de caisses enregistreuses, on a possibilité de faire des modifications à ce niveau-là.
C'est complètement illégal.
C'est pas du tout illégal de faire une déclaration de TVA à zéro si on n'a pas rentré de TVA. Pourquoi on reverserait quelque chose qu'on n'a pas encaissé?
Vous n'avez pas peur de risquer lourd dans cette opération?
Bien sûr que si, qu'on risque lourd. Aujourd'hui, il y a des commerçants et des artisans qui sont au bout du rouleau. Qu'est-ce qu'ils risquent? Bah plus rien. Si on a 10-15 000 commerçants artisans qui jouent le jeu derrière nous, de toute façon, l'État ne pourra jamais contrôler tous ces gens-là et aller vérifier les comptes de chacun.
Top départ ce samedi 1er décembre. Hier, séquence recrutement par téléphone.
Ça peut être frappant, en fait.
Ouais.
Vu la situation actuelle, il faut faire des choses qui frappent. Depuis 6 mois, moi j'ai 0.
Tu te rends compte ce que ça peut apporter au peuple et aux citoyens?
C'est hyper impactant pour l'État.
Le fisc prévient, une fausse déclaration est passible d'une majoration allant de 40 à 80%. Saint-Brieuc, François Coulon, Europe.
À Paris, la préfecture de police a reçu 2 demandes de manifestation pour samedi, l'une place de la République, l'autre de la Madeleine jusqu'à République. 84% des Français trouvent désormais la contestation des Gilets jaunes justifiée. C'est ce qui ressort d'un sondage pour nos confrères du Figaro. Et puis en Corse, les autorités ont demandé le gel du prix des carburants. Ils sont plus chers sur l'île que sur le continent.
Europe 1, il est 6h02.
À peine sorti de prison après une affaire de viol présumé, Tariq Ramadan est rattrapé par son passé.
En Suisse, le théologien est visé par les révélations de certaines de ses anciennes élèves qui auraient été victimes d'attouchements de sa part. Elles étaient mineures, il était leur professeur. Salomé Legrand a pu se procurer pour Europe 1 un rapport d'enquêteur indépendant commandé en Suisse.
Son comportement aurait pu alerter sa hiérarchie. Tous les témoignages recueillis par le rapport s'accordent sur un point. Tariq Ramadan aimait construire une relation particulière avec chacun de ses élèves, filles comme garçons, organisant des entretiens individuels et même des déjeuners en tête-à-tête hors de l'établissement. C'est lors d'un de ces rendez-vous que 3 femmes, à l'époque collégiennes, décrivent chacune la même scène. Des caresses imposées par Tariq Ramadan dans la voiture les menant au restaurant. 2 autres, la première adolescente, la seconde tout juste majeure à l'époque, ont eu des relations sexuelles consenties avec leur professeur, mais disent-elles, sous son emprise. Les collègues du théologien dans les différents établissements, eux, n'avaient décelé aucun comportement répréhensible, rien de particulier si ce n'est un homme brillant, doté d'un immense charisme et capable de fasciner ses élèves.
Salomé Legrand, Gérard Depardieu, entendu par la police avant-hier dans une enquête dans laquelle il est visé pour viol et agression sexuelle. L'acteur n'a pas été placé en garde à vue mais entendu en audition libre. Dans l'actualité également, une nouvelle victoire pour Matteo Salvini. L'Italie a adopté un décret-loi qui durcit sa politique d'immigration. En clair, les permis de séjour seront plus courts, les expulsions facilitées. Plus de 560 personnes récupérées hier en Méditerranée au large de l'Espagne, mais 3 personnes n'ont pas survécu à la traversée. Les migrants étaient à bord de 12 embarcations précaires, dont 2 ont été prises en charge par la garde civile.
Europe 1, il est 6h04.
Mettre une fessée ou une claque à son enfant va-t-il être bientôt interdit par la loi?
À partir d'aujourd'hui, l'Assemblée examine un texte pour interdire les châtiments corporels et psychologiques. Des études en neurosciences ont clairement démontré que les violences étaient inefficaces et pouvaient aussi occasionner des troubles de l'anxiété, par exemple. Mais pour Jean-Louis Masson, député Les Républicains du Var, il est aussi père de 6 enfants, il y a bien d'autres priorités que de s'occuper de la fessée.
La France a tant de problèmes que je m'oppose, moi, personnellement, à ce qu'on discute de choses qui sont dérisoires. Je crois qu'il faut consacrer le temps législatif sur les vrais problèmes des Français. Pour moi, la protection des enfants est suffisante. Il faut arrêter de penser que les parents les parents aiment leurs enfants. Quoi. Enfin, franchement, je préférerais qu'on m'intéresse, moi, à la sécurité des enfants dans les collèges, au fait qu'on vende de la drogue à la sortie des établissements. Il faudrait quand même se connecter avec la vie de la société.
Maud Petit, député Modem, rapporteur du texte, estime quant à elle que rien ne justifie de frapper un enfant.
Je pense qu'il est temps aujourd'hui d'admettre qu'il ne doit plus y avoir une catégorie de la population qui n'a pas les mêmes droits que les autres. En plus, cette catégorie de la population, ce sont les plus fragiles d'entre nous, ce sont nos enfants. Aujourd'hui, il est temps d'acter que les enfants ont les mêmes droits que les adultes. On ne frappe pas un adulte, on ne frappe pas un enfant. Quand on est fâché, quand on est furieux contre un patron, contre un collègue, contre un voisin, il est entendu qu'on ne va pas le frapper, lui donner une claque parce qu'on n'est pas content. Pourquoi est-ce que l'enfant, lui, aurait droit à une correction parce qu'on est fatigué, parce qu'on ne sait pas se maîtriser?
Un propos recueilli par Virginie Salmen pour Europe 1. À suivre aujourd'hui les dirigeants de Renault, Nissan, Mitsubishi qui se réunissent à Amsterdam. Une première depuis l'arrestation de Carlos Ghosn au Japon.
Merci, c'était le journal de Céline Kallmann, présentatrice également du journal de 7h30 chez Nico Saliagas, qui a d'ailleurs inventé un truc, le résumé de fin de journal au cas où on serait allé aux toilettes pendant le journal. Malin.
Qu'est-ce que vous retenez de ce journal, Céline? L'info la plus forte du
journal. Faut pas fumer de joint.
Voilà.
Concis, ingénieux. Bravo Céline.
Europe 1.
Il est 6h06, Mathieu Noël.
À suivre, c'est historique, le fact-checking par l'histoire. Et alors que les députés doivent se prononcer aujourd'hui sur une proposition de loi contre les violences éducatives ordinaires, Fabrice Dalméda revient sur l'histoire de la fessée et autres châtiments corporels. Et vous verrez que par rapport à ce qui se pratiquait dans l'Antiquité, on a quand même fait pas mal de progrès.
Mathieu Noël sur Europe 1.
Il est 6h08, Mathieu Noël.
Un point sur la météo avec vous, Céline Dacosta, de la pluie sur le nord-ouest.
Oui, on retrouve la perturbation arrivée sur la Bretagne hier, sur les Pays de la Loire, la Normandie, les Hauts-de-France ce matin, avec de bonnes rafales de vent, 90 km à l'heure près des côtes, plus de 100 km à l'heure attendu sur la pointe bretonne. Vent soutenu qu'on retrouvera cet après-midi également sur ce secteur, mais avec le retour d'éclaircies. Les pluies, elles, vont se décaler vers le Poitou-Charentes, la région centre, l'Île-de-France et les Ardennes. Ciel couvert pour le Languedoc-Roussillon, partout ailleurs, ce sera encore assez lumineux. Un soleil parfois voilé. Et encore un petit peu de vent près de la Méditerranée dans la vallée du Rhône. Le tout sous des températures très douces pour la saison puisqu'elles vont cet après-midi de 12 à 16 degrés du nord au sud, un petit peu moins dans le nord-est.
Merci Céline. Eva Rock, avant-hier c'était Diane Chénoud, l'anniversaire de Diane Chénouda. Aujourd'hui celui de Jacques Chirac.
Exactement.
Décidément, c'est la semaine des personnalités.
Exactement. Donc on a demandé à nos auditeurs là pour le coup, pour Jacques Chirac, de nous raconter un souvenir. Florence, elle nous raconte l'avoir rencontré lors d'une commémoration en août 1990. Chaleureux et même un peu dragueur, nous dit-elle. Fabrice et Marie-Laure, mais beaucoup d'autres auditeurs nous parlent de cette fameuse phrase « C'est loin, mais c'est beau », vous vous souvenez, où il répétait ça pendant la campagne. Évidemment, sa marionnette à la fois au bébé de chaud et au guignol. Et puis Stoner, il dit « Il m'a fait cadeau de 100 francs en 1981, ainsi qu'à 70 camarades à l'école Aigleton. » Et ça, quelques mois avant la présidentielle, lors d'une visite, autant vous dire, je m'en souviens bien. Voilà, continuez à nous envoyer vos messages sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Merci Eva.
Europe 1,
5h, 7h,
Mathieu Noël.
6h09, l'heure d'accueillir celui qui n'est certes pas l'éphèbe musculeux que je décris chaque matin à ce micro pour le faire mousser au prix de Céline et Eva, mais qui reste néanmoins un homme fort séduisant. Voici Jérôme Lacroix, mesdames.
Oh là là, on dirait Eddie Mitchell.
Oh. Oui, c'est marrant.
Bonjour. Jérôme, ne vous laissez pas déstabiliser. Passons au journal des sports. À la une, un horizon européen qui s'éclaircit.
Celui des footballeurs du Paris Saint-Germain, porté, et oui, vous les entendez, par près de 40 000 spectateurs.
Et oui, on y était.
Et oui, ils ont fait tomber au Parc des Princes Liverpool, les vice-champions d'Europe.
C'est fou, c'est le même son que dans FIFA 2019.
C'est faux.
C'est le même bruit d'ambiance.
Original, recueilli par Cyril de la Morinerie pour Europe 1. Et voilà ces Parisiens qui se rapprochent des huitièmes de finale. Et passez-moi l'expression, un PSG qui avait de la gueule, hein, des stars au niveau dont Neymar. Enfin, première prestation de haute volée dans un grand match avec Paris pour le Brésilien, une fois buteur hier soir. De quoi porter aux anges ses supporters.
Magnifique ce soir.
Ils ont sorti les triples, des vrais guerriers sur le terrain, on les a vus. Ils ont essayé de prendre le public avec eux tout le temps et ça a suivi, donc c'est cool.
On est bien parce qu'il y avait une grosse ambiance. On est content d'avoir gagné parce que c'est comme ça qu'on pourra passer les étapes supplémentaires. On attend la qualification à la prochaine journée et ensuite on verra les phases finales.
Et preuve de l'importance de la victoire d'hier soir, Paris pouvait être éliminé en cas de défaite. L'émir du Qatar était présent au stade et il est passé saluer les joueurs dans le vestiaire après la rencontre.
Alors maintenant Jérôme, que doivent faire les Parisiens pour se qualifier?
Une victoire à Belgrade dans deux semaines et sûr ce sera bon. Un nul peut aussi suffire mais cela dépendrait alors du résultat de l'autre match qui se déroulera ce même soir entre Liverpool et Naples. Rendez-vous pour le verdict le 11 décembre. Également hier soir, défaite 2-0 des Monégasques à Madrid contre l'Atlético de Griezmann. Ce dernier a marqué un but. Les Monégasques ne peuvent plus accrocher la troisième place. Repêchage en Ligue Europa. Les Madrilènes sont eux qualifiés, tout comme Dortmund, Schalke 04 et le FC Porto.
Le handball et les filles de l'équipe de France attaquent aujourd'hui le championnat d'Europe.
Et démarrage en côte pour les championnes du monde parce qu'en levée de rideau, les Russes se présentent. Elles sont championnes olympiques en titre. Les Bleus qui disputent les trois matchs de leur premier tour à Nancy. La compétition se tient en France pour la première fois. Les proches seront donc en tribune, une présence rassurante pour la Strasbourgeoise Laura Flip.
Si j'ai un coup de mou, si j'ai besoin de repères un peu, je sais que je vais tourner la tête, je vais sûrement voir mes parents, mes frères. Du coup, je pense que ça m'aidera à relativiser un peu et à me calmer si jamais je stresse un peu durant le match, avant le match. Voilà.
Propos recueillis par Christophe Lamar, France-Russie, coup d'envoi 21h.
On termine, Jérôme, avec l'histoire du jour.
Alors au début, je voulais vous parler de ce couple de Brive qui tente de prénommer son nouveau-né Griezmann Mbappé. C'est le prénom, hein, retoqué par l'état civil. La justice va trancher jusqu'à ce que je vois cette info sur un autre bleu. N'Golo Kanté, vous vous souvenez qu'il avait refusé qu'une partie de ses revenus soit défiscalisée via l'île de Jersey. Alors il gagne à Chelsea 17 millions d'euros par an. Et du coup, nous apprend le Daily Mirror, il va payer plus de 7,5 millions d'impôts en Angleterre. Alors ce qui est rigolo, c'est que c'est 4 fois plus, par exemple, que le géant de la distribution Amazon.
J'adore cette information.
Qui doivent, cela dit, disposer de très bons avocats fiscalistes.
Voilà, c'est ça. Et surtout qu'ils ne doivent pas se poser les mêmes problèmes éthiques que notre cher N'Golo Kanté, qu'on embrasse. C'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Merci Jérôme. À suivre, au moment où nos députés se penchent sur une proposition de loi qui pourrait aboutir à l'interdiction de la fessée, cette question, va-t-on vers une société trop politiquement correcte, comme semble penser Céline Dacosta, qui hier encore s'insurgeait dans un vibrant édito.
Si on peut même plus dire le mot saucisse.
Oui, historiquement, il y aura eu le j'accuse de Zola et la saucisse de Dacosta. Mais d'un autre côté, il y a ceux qui, comme moi, pensent que ces évolutions sociétales, comme peut-être l'interdiction de la fessée, vont plutôt dans le bon sens. L'occasion, en tout cas, a été trop belle pour que Fabrice Dalméda ne revienne pas sur l'histoire de la fessée à travers les âges. Un alibi en béton pour justifier son historique de recherche Google. Bien joué, Dalméda.
Europe 1.
Je vous ai compris.
Ich bin ein Berliner.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
C'est historique.
Bonjour Fabrice Dalméda.
Bonjour.
Un projet de loi contre les violences ordinaires arrive à l'Assemblée. On le surnomme parfois loi anti-fessée. Dans la lutte contre les violences en famille ou à l'école, c'est un tournant.
En partie, il faut dire que l'on part de très loin. Chez les Romains, le père avait le droit de vie et de mort sur ses enfants. Alors évidemment, par la suite, on a codifié les châtiments corporels. Cette expression d'ailleurs recouvrait les punitions les plus graves. Celles que l'on effectuait à coups de fouet, de garcette, vous savez que c'était une ficelle en marine, ou de tige de bois. Les écoles, les universités, les familles même les utilisaient. On frappait les fesses, le dos, les mains, les pieds, suivant la gravité de la punition. Et il allait de soi que frapper, c'était éduquer. Les rois de France, Henri IV ou Louis XIII par exemple, n'y ont pas échappé.
Mais tout change progressivement en France au XIXe siècle.
Oui, ce sont les éducateurs qui progressivement suppriment les punitions les plus violentes. Celles-là même qui ne sont plus appliquées par les juges, les coups de fouet, les humiliations sur place publique. Et donc progressivement le ministère de l'instruction publique, comme on disait alors, va les bannir de l'université, puis définitivement à partir de 1887, de toutes les écoles. Mais en fait, les gifles, les coups de pied, Les fessées manuelles continuent. On ne parle plus de châtiment corporel, mais de correction. On peine à prendre conscience des effets traumatisants de la violence sur les enfants. On minimise leur douleur.
D'autres personnalités ont fait avancer cette cause, Fabrice ?
Oui, oui, il a fallu attendre évidemment la fin de la Seconde Guerre mondiale et les recherches sur les enfants victimes par des personnalités comme Françoise Dolto pour voir affirmer que l'enfant est une personne et que donc il est avant tout éduqué par la parole. Cela ôtait définitivement l'idée que les parents pouvaient faire ce qu'ils voulaient de leurs enfants et rendait sensible combien la douleur pouvait être grave pour le développement des petits. Les parents doivent donc aujourd'hui trouver d'autres moyens de guider leurs enfants. On retrouvera sûrement des punitions que certains d'entre nous ont vécues. La suppression d'objets, les longues disputes, les interdictions de sortie. Bref, beaucoup de choses sont encore à inventer.
Merci beaucoup Fabrice Dalméda. L'histoire à la rescousse de l'actualité. On vous retrouve demain, juste avant 6h15.
Europe 1, il est 6h16, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures d'infos, de rire et d'interviews à 6h20. Alors que certains représentants des Gilets jaunes ont appelé à une nouvelle mobilisation samedi à Paris, nous serons avec Flore Santisteban, professeure à Sciences Po et spécialiste des conflits sociaux, pour tenter de comprendre quelle peut être l'issue de ce conflit des Gilets jaunes. Espérons, on croise les doigts, évoque Emmanuel Macron et du dialogue social une vision un peu plus nuancée que Bernard Blier chez Audiard.
Le chômage et son cortège de misère. Y avez-vous pensé ?
Fini la petite auto.
Fini le tiercé.
Oh. Alors, au boulot et un peu vite !
On y vient, mais d'abord, Céline, si mes sens ne me trompent pas, et ils me trompent rarement.
Il est 6h20, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Coup de chaud, maladies cardiovasculaires ou rénales, les problèmes de santé liés au réchauffement climatique augmentent à travers le monde. Rapport publié ce matin dans la revue médicale The Lancet. Les plus de 65 ans, les habitants des villes sont particulièrement concernés. Un nouveau mystère dans l'affaire Daval. 3 substances médicamenteuses ont été retrouvées dans le corps d'Alexia Daval. L'une d'elles, le tramadol, ne lui avait jamais été prescrite selon ses proches. Enfin, les Parisiens bien partis pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Victoire 2-1 hier soir face à Liverpool au Parc des Princes. Moins glorieux en revanche pour Monaco, battu 2-0 par l'Atlético Madrid.
Europe 1,
5h, 7h, Mathieu Noël.
Voici donc pour les titres de ce 29 novembre 2018. Et l'actualité aujourd'hui, c'est aussi la mobilisation des Gilets jaunes qui faiblit mais se poursuit. Certains représentants du mouvement appellent en effet à une nouvelle journée de mobilisation samedi. Flore Santisteban, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Vous êtes professeur à Sciences Po et spécialiste des conflits sociaux. Si le gouvernement comptait sur une lassitude de l'opinion vis-à-vis du mouvement des Gilets jaunes, apparemment c'est raté. 2 jours après les annonces faites par Emmanuel Macron et 15 jours après le début de la grogne, la mobilisation se poursuit. Les derniers sondages montrent que 84% des Français trouvent désormais la contestation justifiée. Déjà, est-ce que ça, c'est un chiffre qui vous surprend, cette évolution ?
Alors non, c'est pas un chiffre qui me surprend, essentiellement parce que ce mouvement est un mouvement de fond. Ça, c'est la première chose. Et les revendications qu'il porte, si elles étaient éparses dans un premier temps, trouvent à se structurer et parlent véritablement à cette France d'en bas, à cette France qu'on entend très peu ou plus, et qui se mobilise aujourd'hui dans la rue. Donc ce taux d'adhésion en hausse de 5 points ne me surprend pas.
Et ni les images de violence et de dégradation un peu choquantes du week-end dernier n'y font quoi que ce soit. Les Français sont majoritairement en soutien de ce mouvement.
Oui,
ces
là,
images n'ont pas d'impact pour vous ?
Alors si, elles peuvent en avoir. Essentiellement parce que trois problèmes majeurs peuvent affecter un mouvement social comme celui-ci. Le premier, c'est effectivement la violence qui délégitime et qui, en réalité, décrédibilise le mouvement. Le second, c'est la division qui brouille le message et qui aboutit en réalité aussi à une délégitimation. Et le troisième, c'est l'instrumentalisation politique. Et cette instrumentalisation politique, on la voit se dessiner, notamment lorsque le Premier ministre demande une délégation représentative.
Et comment vous expliquez le fait que ce mouvement, entre guillemets, fonctionne alors qu'il est effectivement très divers en son sein, puisqu'il y a les sympathisants du Rassemblement National qui sont 96% à le soutenir, et les insoumis 92%, et les socialistes 90%. C'est quand même des gens qui normalement ne pensent pas du tout la même chose, qui font partie d'un même mouvement. Est-ce que ça, à terme, ça ne va pas porter préjudice à ce mouvement-là ?
Oui, mais ça, si vous voulez, je pense que c'est plutôt l'irresponsabilité des leaders politiques qui sont derrière. Et je pense en particulier à Jean-Luc Mélenchon, qui a une formule sur le sujet, qui nous dit facho, mais pas facho. Pas fâché, mais pas facho, mais fâché.
Hein,
voilà, la formule, c'est celle-ci. Oui, alors si vous voulez, sans remonter au pacte germano-soviétique,
on peut
en parler, si vous voulez, cette convergence des extrêmes, ce que Pascal Perrineau appelle le pénogauchisme, est un mouvement de fond qu'on voit en Europe hein, et qui accompagne la montée des populismes et qui est un mouvement dangereux. faut prendre en considération. Oui.
Alors, un autre chiffre, c'est que près de 80% des Français estiment que les mesures annoncées en réaction par Emmanuel Macron sont insuffisantes. Est-ce que vous, de votre point de vue, vous trouvez effectivement que par rapport au mouvement de fond, comme vous l'avez décrit, les annonces sont effectivement insuffisantes?
Oui, parce qu'en fait, c'est une certaine verticalité du pouvoir qui s'exerce une fois de plus et qui est tout sauf ce que ce mouvement incarne. Donc, vous avez d'un côté un président, une sorte de prince avec ses ouailles qui est dans une verticalité absolue, et un mouvement qui se revendique d'une horizontalité, d'une absence de représentation et qui ne peut pas être entendu sur des schémas politiques traditionnels.
Alors, si vous deviez donner un conseil à Emmanuel Macron, quel serait ce conseil? Non, mais c'est vrai que les présidents sont entourés de conseillers. Là, vous êtes une experte. Qu'est-ce que vous lui diriez?
Bien, moi, je le rappellerai à sa promesse de campagne du jury citoyen. Pendant la campagne, Emmanuel Macron avait proposé un tirage au sort citoyen sous forme d'une conférence de presse citoyenne pour permettre une expression populaire directe. Voilà, s'il y avait
sous-jacent, c'est que les Français n'adhèrent plus aux représentations traditionnelles que sont les syndicats et les partis politiques. Donc il faut réinventer en fait une nouvelle forme de représentation sociale.
Oui, tout à fait, de nouveaux objets de représentation. Et le jury citoyen peut en faire partie. Je pense aux travaux de Pierre Rosanvallon, de Dominique Rousseau aussi, qui propose une assemblée consultative avec une voix délibérative. On peut imaginer transformer le Conseil économique, social et environnemental en une véritable assemblée qui pourrait effectivement représenter une France qui ne l'est pas aujourd'hui.
Un mot des syndicats dans tout ça, c'est vrai qu'on les trouve assez absents et que la mobilisation est plutôt spontanée. Est-ce que c'est la fin des syndicats? Enfin, est-ce qu'on est un tournant historique?
Alors, il y a deux choses avec les syndicats. Le premier, c'est le taux de syndicalisation qui est quand même le plus faible d'Europe dans notre pays. Et le second, c'est les élections professionnelles qui arrivent le 6 décembre. Donc les syndicats sont extrêmement mobilisés sur l'enjeu de représentation interne pour eux.
Ah oui, mais ils devraient un peu se soucier de ce qui se passe dans le pays.
Je suis bien d'accord, c'est la semaine prochaine. Et c'est vrai que bon, alors la CGT appelle à manifester le 1er décembre. On voit que Laurent Berger a quand même essayé de tendre la main au gouvernement. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas légitimes pour représenter ce mouvement. Donc, je dirais, les syndicats sont plus spectateurs qu'acteurs. Hein,
et que les Gilets jaunes ne se reconnaissent pas non plus dans les revendications portées, en tout cas, par les syndicats aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Les Français, d'une façon générale, je me réfère au baromètre de la confiance politique de mon laboratoire, le CVPOF, qui montre qu'on a un taux d'adhésion, que ce soit pour les partis ou les syndicats, qui est inférieur à 15%, ce qui est effectivement très préoccupant. Ouais.
Ouais. Pour terminer, on parlait de la réaction d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'elle était à la hauteur ou pas des revendications des Gilets jaunes? Selon vous, la consultation citoyenne qui est prévue par le chef d'État, ça peut contribuer à calmer les esprits ou c'est de la poudre aux yeux?
Écoutez, on verra, on ne peut pas préjuger, mais effectivement, ça peut être une façon d'en sortir, sous la seule réserve que le Gilets jaunes soient pleinement associés à cette consultation et qu'ils n'en sortent pas un dialogue de sourds et que les revendications soient véritablement entendues par le chef de l'État.
Merci beaucoup Flore Santisteban d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes prof à Sciences Po et spécialiste des conflits sociaux.
Europe 1, il est 6h26, Mathieu Noël.
Debout les copains, continue sur Europe 1 avant de retrouver le journal de 6h30 de David Doucan. La météo revient et le ciel est toujours aussi couvert et la pluie même sur le Nord-Ouest.
Mathieu Noël sur Europe 1.
Il est 6h28, Mathieu Noël.
Juste avant de retrouver le journal de 6h30, la météo avec vous, Céline Dacosta, pluie et vent au programme.
Oui, on retrouve la perturbation arrivée hier sur la Bretagne, surtout le nord-ouest jusqu'au Hauts-de-France, avec des averses et un vent soutenu. 50 à 60 km à l'heure dans les terres, 70 à 90 km à l'heure près des côtes de la Manche. Et les rafales pourraient dépasser les 100 km à l'heure sur la pointe bretonne. Ciel nuageux et plus faibles concerneront le Poitou-Charentes, l'Île-de-France et les Ardennes pour cet après-midi. Pour ce matin et pour les autres, c'est un soleil souvent voilé, un petit peu plus lumineux entre les Pyrénées, le Massif central et les Bouches-du-Rhône. C'est en revanche couvert avec quelques ondées possibles sur le Languedoc-Roussillon. Les températures, elles vont ce matin de 4 degrés à Tarbes, 6 à Strasbourg, 9 à Bourges, 12 à Vannes, 13 à Bray, jusqu'à 16 degrés à Biarritz.
Et cet après-midi justement,
c'est... Oui, on y arrive. La perturbation avance vers le sud-est. On va retrouver nos averses entre l'Aquitaine, la région centre, l'Île-de-France, la Champagne-Ardenne. Encore beaucoup de vent entre la Bretagne, les Pays de la Loire, la Normandie, le Pas-de-Calais, mais avec le retour d'éclaircies. Peut-être encore un petit peu de pluie près des côtes et un coup de tonnerre éventuel sur la pointe bretonne. C'est toujours nuageux sur le Languedoc-Roussillon et plutôt lumineux avec un soleil parfois voilé pour les autres. Les températures, une moyenne très douce, puisqu'elle ira de 12 à 17 degrés du nord au sud, 13 à Paris. Ce sera un petit peu plus frais dans le nord-est avec 9 à 12 degrés.
Merci Céline. Et aujourd'hui, 29 novembre, l'événement c'est...
Photon, Jacques Chirac.
L'anniversaire de Jacques Chirac. Eva, vous avez posé une question à nos auditeurs.
Oui, quel est le souvenir qui leur revient de façon un peu immédiate quand on leur dit Jacques Chirac? Eh bien, beaucoup nous ont parlé de ce slogan, en l'occurrence de ses chansons pour ses campagnes présidentielles. Beaucoup nous ont parlé aussi du débat face à François Mitterrand en 1988. Et puis Taco nous dit, quand j'avais 5 ou 6 ans, je découpais sa tête partout où je la trouvais, notamment dans l'été, 7 jours chez mes grands-parents. Je l'ai collé sur des feuilles où je dessinais des cœurs. Et pourtant, je suis une famille de gauche, donc rien n'explique ceci.
Le charme, peut-être, voilà, le charme, tout peut-être simplement, le charme, de Jacques Chirac. Merci Eva, merci aux auditeurs.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui combine journalisme et légèreté, info et galéjade. Galéjade parfois certes un peu leste, mais qui ne nous empêche pas de rester toujours élégant, comme en témoigne le rire jamais gras de Céline Dacosta. À suivre. Politique, économie, médias, les trois fantastiques vous livrent leur vision de l'actu. Au programme, notamment ce matin, cette question: que se passe-t-il vraiment dans la tête d'Emmanuel Macron? Pourquoi reste-t-il au creux de la vague? Pourquoi ne reçoit-il pas les gilets jaunes? Élément de réponse avec Mickaël Darmon.
Vous écoutez Europe 1, il est 6h30. 5h-7h, Mathieu Noël.
Voici le journal de 6h30 avec vous, David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin.
C'est une crise politique, les oppositions espèrent bien en tirer profit. Laurent Wauquiez, le patron des Républicains, passe 2 jours dans l'Oise au contact des Gilets jaunes. Reportage dès le début de ce journal. Les consultations commencent aujourd'hui à Matignon, mais sans les principaux intéressés. Faute de réels représentants, le Premier ministre ne sait pas à qui s'adresser chez les Gilets jaunes. L'organisation du mouvement s'avère très compliquée. Enquête Europe 1 sur le terrain dans un instant. La crise migratoire en Europe n'a pas disparu alors que les naufrages continuent en Méditerranée. C'est maintenant dans la Manche que des réseaux mafieux organisent des traversées périlleuses.
Europe 1.
Qui de Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon ou Laurent Wauquiez va tirer les marrons du feu? Ou peut-être aucun des trois d'ailleurs, tant les gilets jaunes se méfient des partis politiques. En tout cas, le président des Républicains a bien l'intention de se montrer aux côtés des protestataires. Laurent Wauquiez est actuellement en déplacement dans l'Oise. Reportage Aurélie Herbemont.
Laurent Wauquiez enfile son gilet jaune, pas pour manifester, mais parce qu'il visite une usine, les gilets jaunes, fil rouge de sa tournée de l'Oise, le groupe du rond-point de Beauvais demande à le voir, puis des gilets jaunes de Compiègne viennent à sa rencontre. 40 minutes d'échange entre le patron de LR, une ouvrière, 2 chauffeurs routiers, 1 aide-soignant, tous mécontents de la réponse du chef de l'État.
On demande juste à vivre décemment, avec le fruit de notre travail.
Il faut toujours tirer 20€ ou 50€ par-ci par-là pour essayer de s'en sortir.
Ils ne comprennent pas ça. Vous, vous posez un problème de pouvoir d'achat, de taxes et d'impôts, et on vous répond avec un cours sur l'écologie.
Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il veut faire vraiment monter la colère.
Laurent Wauquiez déroule donc sa proposition de sortie de crise.
Ce qu'il faut qu'on obtienne, c'est qu'il faut qu'il y ait un référendum.
Avec quelle question? Parce qu'on peut faire un référendum sur le pouvoir d'achat.
Mais ça, à la limite, on le définit ensemble.
Laurent Wauquiez l'assure, il n'est pas là pour faire de la récupération, il veut juste éviter la violence. Un élu LR confie, si ça se trouve, aucun parti ne tirera profit de cette colère qui pourrait selon lui finir en abstention massive. Dans l'Oise, Aurélie Herbemont, Europe 1.
Et à Paris, ce sont 2 jours de consultation qui commencent aujourd'hui à Matignon. L'objectif est de dessiner la grande concertation sur 3 mois voulue par Emmanuel Macron pour répondre au mouvement des Gilets jaunes. Seul problème, Édouard Philippe reçoit tout le monde, sauf les Gilets jaunes. Le Premier ministre souhaite les rencontrer, mais pour l'instant, il ne trouve pas d'interlocuteur représentatif car la structuration du mouvement s'avère bien compliquée. Les 8 porte-paroles qui s'étaient mis en avant sont contestées de toutes parts. L'appel à manifester samedi sur les Champs-Élysées ne fait pas l'unanimité non plus. Il y a néanmoins un point sur lequel tous les gilets jaunes sont d'accord, c'est qu'il faut, d'une manière ou d'une autre, maintenir la pression, comme en atteste ce reportage sur un rond-point du Var, signé Frédéric Michel.
Ils sont retraités, artisans, salariés, la plupart ne se connaissaient pas, mais depuis 12 jours, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il fasse froid, ils occupent ensemble le péage du Muy.
Nous on est venus 4 amis, mais après voilà, c'est... il y en a qui viennent en famille, il y en a qui viennent entre amis. Chacun est libre, chacun fait comme il peut en fait.
Nora est secrétaire dans une entreprise de transport.
Je travaille souvent plus le matin, donc je viens l'après-midi, et le soir si je peux aussi. Il y a toujours du monde, les gens se relaient naturellement.
Certains iront samedi à Paris, d'autres avouent ne pas avoir le budget, mais tous sont convaincus que la lutte doit continuer partout en France.
Paris pour nous, ça partait d'une bonne idée, mais forcément on sait très bien qu'on aura une infiltration de casse.
casseur. On part au casse-pipe pour rien. On va se faire une mauvaise image, on va rien gagner.
Pour rester continuer dans nos régions. Le mouvement dans nos régions. Oui.
Lorenzo est un jeune entrepreneur de 19 ans.
Moi, je vois la révolte à Paris, mais je la vois aussi sur les ports, à Marseille, au Havre, à Rouen. Je pense que c'est là qu'il faut taper. Il faut arrêter de faire chier les gens, surtout la population, les gens qui vont chercher leur enfant à l'école, les gens qui vont aller travailler. Il faut taper dur et se rendre à Paris.
Et un durcissement du mouvement, c'est ici ce que tout le monde prédit. Au Muy, dans le Var, Frédéric Michel, Europe 1.
À suivre dans ce journal, la Manche va-t-elle, comme la Méditerranée, devenir un cimetière? Des réseaux de passeurs organisent désormais des traversées en bateau pour les migrants et c'est très dangereux. À tout de suite.
Europe 1, il est 6h35. Il est 6h36, Mathieu Noël.
La suite du journal David Doucan, un phénomène nouveau qui ajoute au drame de la crise des migrants en Europe.
Oui, et cela inquiète de plus en plus les autorités à Calais. Les candidats à l'exil essaient désormais de traverser la Manche à bord d'embarcations de fortune. On dénombre 19 tentatives sur seulement ces deux derniers mois. Et bien sûr, derrière ces initiatives très dangereuses, il y a des réseaux mafieux. Reportage Kevin Tullier.
C'est le nouveau filon d'un réseau de passeurs des Iraniens qui font payer les migrants de 5 à 10 000 euros la traversée de la Manche en Zodiac, une méthode qui inquiète Christian Salomé de l'Auberge des migrants.
Les gens doivent faire quelques dizaines de mètres dans l'eau jusqu'à la taille. Il fait entre 2 et 3 degrés. Il faut vraiment être riche, être déterminé. C'est presque à la vie et à la mort.
C'est généralement de la plage de Calais que partent les migrants où ils gonflent de nuit leur bateau, ce qui rend les traversées difficilement détectables pour les sauveteurs en mer de Calais et leur président Bernard Baron.
Les gars pensent que Douvres c'est à côté, on a l'impression que c'est un grand lac, mais c'est pas le cas, hein. C'est une mer avec des marées, avec une circulation de bateaux intense, ces petits bateaux qui sont à la dérive, c'est un peu l'escargot qui traverse une autoroute.
Ces traversées en bateau ne font plus peur aux migrants qui ont de plus en plus de difficultés à passer le tunnel caché dans un camion. Ce Kurde, lui, est prêt à tout pour rejoindre l'Angleterre.
J'ai essayé Dieppe, j'ai essayé la Belgique et pourquoi pas le bateau. Mon seul but c'est de rejoindre l'Angleterre. Je n'abandonne pas. Je viens de tellement loin.
L'Angleterre craint de voir une augmentation de ses traversées dans les prochains jours. Elle a intensifié le déploiement de vaisseaux de patrouille le long de ses côtes.
Reportage de l'un de nos correspondants dans le Nord, Kevin Tullier. Et sachez par ailleurs que 564 migrants ont été récupérés hier en Méditerranée à proximité de l'Espagne. Ils étaient à bord de 12 embarcations précaires. Les gardes-côtes espagnols les ont acheminés vers les ports andalous de Malaga, Almeria et Motril. Les services de sauvetage ont aussi annoncé qu'ils avaient retrouvé 3 cadavres hier soir en mer. Depuis janvier 2018, 675 migrants ont trouvé la mort en essayant de rejoindre l'Espagne. Prévision alarmiste de la Banque d'Angleterre hier, selon l'autorité monétaire britannique, un Brexit sans accord causerait un choc énorme pour l'économie du Royaume-Uni. La livre s'effondrerait de 25% et le produit intérieur brut chuterait de plus de 10% d'ici 2024. Je vous rappelle que ce scénario est possible puisque l'accord obtenu par Theresa May doit être ratifié par le Parlement britannique qui pour l'instant y est majoritairement opposé.
Parlons maintenant littérature. Le 34e salon du livre jeunesse se tient jusqu'à lundi à Montreuil.
Oui, et en marge de ce salon, des ateliers de lecture sont organisés pour apprendre aux mères de famille à mieux lire des histoires à leurs enfants. Reportage Victor Dolande.
Dans une petite salle de la maison de quartier de Bondy, une quinzaine de mères de famille feuillettent des livres pour enfants, des petites histoires très simples pour prendre goût à la lecture. Au centre de la pièce, une travailleuse sociale rassure ses mamans.
Ça, c'est un livre animé. Même si on ne parle pas très bien le français, ce n'est pas un problème. Parce qu'on n'a pas besoin de lire le texte.
Ikram Amdaoui dirige ses ateliers une fois par mois. Elle donne des conseils de lecture à ses mères d'origine étrangère, quasiment toutes illettrées.
Tout ce qui donne envie à lire ce livre, nous, on essaye de le mettre en valeur. Le papier, les images, et surtout, le redonner confiance en elle. Ça, c'est très important. Parce que ce manque de confiance, ça casse tout, malheureusement. Et elles se bloquent pour partager un moment de lecture avec leurs enfants.
Samira a fait des progrès considérables en français depuis qu'elle suit ses ateliers. Et chez elle, sa vie de famille avec ses 4 enfants a totalement changé.
Avant, c'était la routine, la cuisine, la télé, et puis après, au dodo. Alors que maintenant, j'essaie de prendre le temps à mes enfants. Chaque soir, leur raconter une petite histoire. Même mon mari qui ne sait pas lire, lui-même, il arrive à raconter à sa façon.
Des ateliers de lecture qui marchent, la preuve, parmi ces mères de famille, plus de la moitié s'est déjà inscrite à la bibliothèque.
Victor Dolande pour Europe 1. Ils ont été bons, Mathieu.
Forcé de le reconnaître.
Il faut le dire. Ils ont maintenant leur destin en main. Le Paris Saint-Germain a sorti un grand match hier soir au Parc des Princes et a battu Liverpool 2-1. Les huitièmes de finale de la Ligue des Champions sont maintenant en ligne de mire. Ça se jouera le 11 décembre prochain à Belgrade, face à l'Étoile Rouge.
C'était le journal de David Doucan, toujours extrêmement complet, car c'est là une des marques de fabrique du Doucan. Il tient à ce que vous sachiez tout, quitte parfois à faire des lancements un peu long.
Le chef de l'État est-il en train de céder sous la pression des gilets jaunes? C'est la question. Sur les barrages, militants de la France Insoumise et du Rassemblement National sont souvent côte à côte. Une image impensable il y a encore quelques jours. Reportage Arthur Mbaché.
C'est tout mis.
Tout est
mélangé.
Il y avait tout.
Il y avait tout.
La gauche, la droite, Mélenchon.
Personne n'a rien compris, mais il y avait tout.
Bravo mon champion, c'est bien là l'essentiel. Bravo David, on passe à la météo. Céline, oui. Quel temps sur la France aujourd'hui? C'est encore très couvert et de la pluie sur le nord-ouest.
Exactement, avec du vent, hein, avec un vent soutenu même près des côtes et sur la pointe bretonne. Ailleurs, un ciel nuageux et plus on va vers le sud, plus le soleil sera présent, même s'il sera parfois voilé. Cet après-midi, les éclaircies reviendront près des côtes de la Manche avec encore beaucoup de vent jusque dans les terres. Les averses gagneront une ligne Poitou-Charentes, région centre et de France Ardennes. Ailleurs, toujours ce ciel plus ou moins lumineux. Demain, un ciel pluvieux sur la moitié est. Hein, la perturbation se décale un petit peu plus, mitigé pour les autres. Et puis on dirige vers un week-end pluvieux avec beaucoup de vent samedi, surtout le nord-ouest, où les averses seront les plus soutenues. Encore un petit peu de soleil près de la Méditerranée. Dimanche, là aussi, de la pluie pour les trois quarts du pays. On aura quelques éclaircies timides hein, entre les gouttes près des côtes de la Manche et entre le comté niçois et la Corse.
Merci Céline Dacosta.
Europe 1. Il est 6h41, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui démontre au quotidien que bonne humeur et fantaisie ne sont pas incompatibles avec un sens aigu du professionnalisme. Ainsi, jour après jour, nous développons pour vous, chers auditeurs, des techniques afin de vous garantir une fluidité optimale d'écoute. Hier, alors que le nouveau logiciel présentait encore quelques légers bugs nuisant à cette fluidité, ma consoeur Céline Dacosta a ainsi eu une idée.
Je te propose à chaque fois qu'il y a une couille dans le potage comme ça que je donne l'heure.
Oh, ça c'est pas con. À suivre, politique, économie, médias, retrouver un éclairage unique, celui de nos éditorialistes. Vous comprendrez que ce n'est pas pour rien qu'on les appelle les trois fantastiques.
C'est une couille dans le potage comme
oui.
Ça que donne l'heure.
Oui, oui, on fait comme ça, c'est bien.
Il est 6h43, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Le Premier ministre entame ce matin deux journées de consultation à Matignon. Objectif, dessiner la grande concertation sur trois mois voulue par le Président de la République. Édouard Philippe reçoit syndicats, patronats, ONG, experts environnementaux. Mais pour l'instant, faute d'instances représentatives, pas de gilets jaunes. Emmanuel Macron lui est arrivé à Buenos Aires. C'est un G20 sous haute tension qui va commencer. Donald Trump veut s'en servir pour régler ses comptes avec la Chine sur la guerre commerciale et avec Vladimir Poutine sur l'Ukraine. Et puis Paris, enfin magique, le Paris Saint-Germain a sorti un grand match hier soir au Parc des Princes. Les Parisiens ont battu Liverpool 2-1. La qualification en 8e de finale de la Ligue des Champions est désormais au bout de leurs crampons. Rendez-vous le 11 décembre prochain à Belgrade.
Europe 1,
5h, 7h, Mathieu Noël.
6h44, ils sont trois. Ils avancent auréolés de leur légende. Et même si désormais, pour de sombres raisons de coupes budgétaires dont je vous épargne les détails, leur musique d'entrée, le thème du film Avenger, doit désormais être interprété directement par Eva Rocco-Cléron. Il n'en reste pas moins les trois fantastiques. Michael Darmon pour la politique, Eva Rock pour la télévision, Axel de Tarlé pour l'économie. Arrêtez Eva, c'est perturbant. Trois éditorialistes réputés pour leur impartialité. Impartialité qui a son importance en ces temps de débats passionnés autour des gilets jaunes. Et là, avec eux, on est rassuré. Bien malin qui pourra par exemple deviner l'opinion personnelle dans Axel de Tarlé sur le sujet.
Maintenant, les impôts et les taxes, ça suffit.
Bien, on va commencer du coup par Michael Darmon, plutôt Michael Darmon.
C'est Bruno Le Maire.
On vous rattrape. Ne vous rattrapez pas. Malgré les prises de parole d'Emmanuel Macron et d'Edouard Philippe, la pression des gilets jaunes ne retombe pas, Michael. Ils sont même soutenus par de plus en plus de Français, selon les derniers sondages. Dans quel état d'esprit se trouve actuellement le chef de l'État face à ce conflit d'un genre nouveau?
Eh bien, petit comité, il est très lucide hein, dans l'équipe présidentielle, on l'admet. On a fondé notre projet politique pour aider la catégorie des Français issus des classes moyennes. Et ce sont justement elles qui nous rentrent dedans. Alors pourquoi la situation est-elle devenue si tendue? Eh bien Emmanuel Macron n'a aucun doute sur l'objectif, il faut faire la transition écologique. Le problème, ce sont les politiques mises en place qui n'arrivent pas à franchir la distance pour arriver jusqu'aux particuliers, dit-il. Le président d'ailleurs donne en exemple le parcours du combattant pour déclencher le chèque énergie. En clair, Emmanuel Macron est agacé par la pensée trop complexe de la technocratie. D'ailleurs, il compte lui dire sa façon de penser au cours du séminaire du 12 décembre, comme Europe 1 l'avait révélé la semaine dernière, face aux 4000 cadres de la fonction public et on aura d'ailleurs l'occasion de revenir sur ce séminaire de recadrage dans les prochains jours.
Alors que les gilets jaunes sont incités à participer aux concertations territoriales sur la transition écologique, reste une question, Emmanuel Macron va-t-il accéder à leurs revendications?
Eh bien, sans hésiter, autour du président, on dit, on n'est pas audible pour l'instant, on est dans un moment où l'on sait que quoi qu'on dise, rien ne calmera la situation et pour cette raison, toute annonce de mesures financières risque de donc pâtir d'une surenchère. Donc l'Élysée veut d'abord que le processus de concertation s'engage et devienne une sorte de grande opération d'états généraux de la transition écologique. C'est l'étape gouverner autrement, parler avec la France d'en bas. Pourtant, si l'on écoute les Gilets jaunes, en fait, eux, ils préfèrent la méthode Jupiter. Parce qu'eux, ils veulent parler directement avec le patron. Ils veulent parler en haut avec donc Emmanuel Macron. Mais ils pourraient peut-être les recevoir. Alors, posons la question, provoquer un électrochoc, surprendre. Eh bien non, ils ne souhaitent pas pour l'instant rencontrer les Gilets jaunes. C'est beaucoup trop tôt, selon un conseiller de l'Élysée. Ils pourraient les recevoir. Mais pour conclure la concertation, on le voit, la prudence a remplacé l'audace des premiers temps.
Merci Mickaël Darmon. On passe à l'économie avec vous, Axel de Tarlet. Et ça tangue chez Vallourec et General Motors en cause la transition écologique.
Oui, des informations de presse ont circulé hier. Un plan social serait en préparation de grande ampleur chez Vallourec en France et en Allemagne avec plus de 1000 suppressions de postes. Alors Vallourec a démenti, je cite, préparer un plan de grande ampleur en France. Enfin, l'entreprise va très mal. Alors pourquoi ? Que fabrique Vallourec ?
Rappelons-le.
Eh bien Vallourec fabrique des tubes sans soudure. Et à quoi servent ces tubes sans soudure ? À aller chercher du pétrole au fond. Vous voyez, Vallourec travaille pour l'industrie pétrolière. Or, ces dernières années, avec le prix du pétrole qui était très bas, toutes les compagnies pétrolières ont dit on arrête de forer, stop. Du coup, Vallourec n'a vendu aucun de ses tubes sans soudure pendant des années. Et donc, Vallourec va très mal en ce moment. Pourquoi je vous parle Vallourec ? Parce que cette information résonne avec General Motors, qui de la même façon vient d'annoncer la fermeture de 7 usines et de supprimer 15% de ses effectifs dans le monde. Et bien de la même façon, General Motors dit qu'il faut se préparer à la fin du tout pétrole. Il faut passer à la voiture électrique. Et donc, Vallourec supprime énorme. Par exemple, General Motors va arrêter de fabriquer des grosses berlines consomment énormément pour fabriquer de petites voitures électriques et donc d'où ces suppressions de postes. Vous voyez, ce sont des moments, on peut comprendre, on peut saluer ce virage, mais ce sont des moments compliqués.
Des moments charnières. Cette transition écologique va créer de nouveaux emplois verts dans la voiture électrique, les énergies propres, les batteries.
Alors voilà, on détruit des emplois d'un côté, on en crée de l'autre. Le problème, c'est que par exemple, vous me parlez de la voiture électrique, vous savez qu'elle est bien plus simple à monter. Il y a beaucoup moins de pièces à usiner. Donc c'est Volkswagen qui dit c'est tellement simple à fabriquer une voiture électrique, on aura besoin de beaucoup moins de monde dans nos usines. Et donc Volkswagen a déjà prévu de supprimer 30 000 emplois. Vous voyez, ces moments charnières, ces moments de crise, comme on dit, sont toujours des moments compliqués à gérer. Vous savez qu'en chinois, le mot crise, il y a un même idéogramme. C'est le même idéogramme qui veut dire à la fois danger et opportunité. Et pourquoi je vous parle des Chinois ? Parce que par exemple, où sont fabriquées les batteries aujourd'hui ?
En Chine.
Ah, en oui. Chine, vous voyez. Et donc dans ce grand mouvement, dans cette grande transition écologique, les vainqueurs pourraient ne pas forcément être chez nous.
Merci beaucoup Axel de Tarlet, économiste et sinologue, je le découvre. Vraiment, vous avez décidément tous les talents. On comprend l'attribution de ce dauphin d'or en 2003. Peut-être le dauphin d'or 2019 vous attend. Merci à tous. Eva Rock.
Oui, deux programmes à ne pas manquer ce soir. Un documentaire et une nouvelle
oublier,
série.
Pardon.
Oui, je sais, vous avez tellement l'habitude de me voir que vous ne me voyez
c'est
plus.
Ça. C'est ça. C'est
alors,
couples.
Un documentaire et une nouvelle série. Le documentaire, ça s'appelle France-Algérie, une histoire de famille. C'est à voir sur France 2 à 21h. C'est le retour sur cette histoire douloureuse, vieille de plus d'un demi-siècle et dont les plaies ne sont toujours pas cicatrisés. C'est un documentaire raconté par Laurent Delahousse et réalisé par Dominique Fargue et Frédéric Martin qui mêle à la fois l'expertise des historiens au témoignage de ceux qui ont vécu ces événements comme Daniel. Elle raconte l'exode et l'arrivée en métropole.
Nous n'étions jamais venus en France avant 1962, comme la plupart des Français d'Algérie. Donc pour nous, quand on nous a collé l'étiquette rapatriés, ça ne voulait pas dire grand-chose. Hein. Moi, je dis toujours, on a été patriés. Parce que la patrie était quelque chose de totalement artificiel, totalement désincarné.
C'est un documentaire extrêmement bien fait, équilibré, complet, dans lequel vous pourrez découvrir notamment les interviews d'Emmanuel Macron et de Jean-Marie Le Pen. Mais si vous êtes férus de séries, c'est sur Arte que vous avez rendez-vous pour Au nom du père. C'est une série signée Adam Price, à qui on doit notamment Borgen. Alors l'histoire, elle est simple. C'est dans la famille Krog, on est pasteur de père en fils. Johannes, c'est le chef de famille. Il espérait devenir évêque. La tâche va être plus ardue que prévu. L'homme est complexe, mystérieux, alcoolique et colérique.
Mon père est un grand homme. Il est d'une bonne famille, une famille de pasteurs. Et mon père est en colère.
Ne me demande plus jamais rien.
Il a Dieu sur le dos.
Papa, t'es complètement ivre.
Lâche-moi maintenant, petit con.
Ça fait des générations que nous sommes en colère dans la famille.
Dieu, où es-tu ?
Coup de cœur pour cette série qui, sur fond de problèmes, de problématiques religieuses, en fait, décrypte les rapports sociaux. C'est une fiction très réussie, notamment par l'équilibre entre ces deux univers, justement, et le regard profondément humain qui est porté sur notre société contemporaine. C'est à voir à 20h50 sur Arte.
Merci beaucoup, Eva Rock. Merci, Mickaël Darmon, Axel de Tarlet. Les Trois Fantastiques seront de retour demain avant 7h moins le quart. Mais dis donc, Mickaël, on a oublié de fêter l'anniversaire de Jacques Chirac. Qu'est-ce qu'on dit ?
Jacques Chirac.
beaucoup de souvenirs, Michael. Hein. Beaucoup de souvenirs. On lui fait un petit coucou.
Mais oui.
Je suis à quel âge?
Manger des pommes, 86 ans.
86 ans, bien joué, Baroque, plus réactif que moi.
Il est 6h51, Mathieu Noël.
Debout les copains, c'est bientôt terminé. L'heure de céder la place à Nikos Aliagas approche. Nikos qui a clairement décidé de passer la seconde depuis quelques jours. Avec une stratégie de conquête des auditeurs très axée sur l'international. Comme il me le confiait, je cite, « Si les auditeurs ne sont pas en France, on va aller les chercher aux States. Don't act !»
Brothers and sisters, bon réveil à tous sur Europe One.
La matinale de Jean-Claude Vendredi, de Nikos Aliagas, à suivre.
Il est 6h54, Mathieu Noël.
Debout les copains touche à sa fin, mais la relève est là. Et ma foi, quelle relève! Il est très clair que le meilleur est à venir. Le débrief de la matinale de Nikos Aliagas, le seul présentateur de radio français qui parle aussi à Los Angeles et Miami.
Brothers and sisters, bon réveil à tous sur Europe One.
Oui, voilà un homme déterminé qui ira chercher les auditeurs avec les dents et même de l'autre côté de l'Atlantique s'il le faut. Un homme qui sait aussi parler aux jeunes via les réseaux sociaux, même si, je ne sais pas Nikos, si un vrai jeune commencerait un live Insta en criant « Salut Internet ».
Salut Internet, salut, c'est Europe 1 sur Instagram, c'est Brunch. J'ai mon badge, on peut commencer.
Je m'inscris c'est en bien, faux. C'est ce que me demandent les gens d'ici. Je le fais pour eux, c'est des gamins.
Oh là là, vous êtes sympathique. Oui, Nikos, vous
mauvaise
êtes vraiment
langue.
Un mec top cool, mais pas que. Ce que j'admire chez vous, c'est votre polyvalence, cette capacité à citer Martin Luther King.
Nous devons apprendre à vivre ensemble, sinon nous allons mourir tous ensemble.
Puis l'instant d'après, d'après un philosophe cher à votre cœur, Socrate, Platon, Épictète? Non. Éric Morena.
Mon bateau, tu es le plus beau des bateaux et tu me guides sur les flots.
Oh, mon bateau.
Alors, vous êtes vraiment le présentateur tout-terrain qu'on attendait, le Range Rover du news, même si on ne s'aventurera pas ce matin sur le terrain automobile, car en effet, le ridicule comme la vengeance est un plat qui se mange froid. Et mieux reprendre, je crois, un peu de recul pour analyser la sortie de route dite de la chronique innovation sur les carrosseries transparentes que Nikos, il a rien compris, même après les explications de notre spécialiste, mais rien du tout. Mais je vais vous dire,
vous l'avez vu.
Moi non plus, j'ai rien compris. Je pense qu'on y revient. Demain, il faut du temps. Je pense qu'il faudra rediffuser toute la chronique dans
sa totalité. J'ai fait semblant par politesse.
J'ai vu ça. Non, on y reviendra demain. Non, ce matin, je saluerai plutôt l'avènement d'une nouvelle rubrique que j'aime beaucoup et qui devrait devenir un rendez-vous incontournable de cette matinale. J'ai nommé l'éphéméride Macho Salas du direct, en direct du Balto featuring Laurent Cabron,
oui,
en partenariat avec les pastis Ardent. Toujours une succulente tranche de vie.
Laurent, oui. Pluie, averse et tourment tend à réjouir la servante.
Oula.
Vous avez l'image?
Ah, c'est pas mal. La Madelon, je la veux bien aujourd'hui.
Ah, on n'est pas bien là, Tintin. Eh,
franchement, on pourrait faire un sketch.
Oui, mais oui, c'est clair. Enfin, avant de prendre congé, une fois n'est pas coutume, je vous ferai, mon cher Nikos, un vrai compliment, sincère. Franchement, non. Je ne sais pas comment vous avez fait pour rester confiant hier durant l'interview de Patrice Lecomte, quand, au bout de 37 secondes, Patrice Lecomte n'était toujours pas là et que vous avez donc dû occuper ces 37 secondes à dialoguer avec vous-même, spéculant habilement sur le fait de savoir si Lecomte était là ou pas. Moi, je crois que j'aurais bêtement envoyé un disque, pas vous.
Bonjour Patrice Lecomte. Bonjour Patrice Lecomte. Patrice Lecomte, bonjour. Est-ce que vous êtes avec nous, Patrice Lecomte? J'entends le souffle de l'environnement, de l'espace dans lequel vous vous trouvez, mais je ne vous entends pas. Pourriez-vous vous exprimer? Il n'est pas loin. Il est avec nous au téléphone. Bonjour Patrice Lecomte.
Et bonjour Nico.
Ah, mais ça fait plaisir. J'ai cru que je parlais à un moment dans le vide.
Non, pas du tout.
J'adore les chiffres et les lettres. Mais oui. Je n'ai qu'un mot à dire, le compte est bon.
Le compte est bon, bravo. Bravo, quelle pirouette. Bravo mon champion. Et bonne journée sur Europe 1.
Merci Mathieu. Mathieu Noël, dès 5h du matin sur Europe 1 avec Eva Rock et Céline Dacosta.